Bonjour Alberto Lombardo, merci d'être avec nous dans les studios de Radio Primitive pour nous présenter une comédie fatale, il faudra revenir sur l'utilisation de cet adjectif, une comédie donc qui est présentée au Cellier le jeudi 1er, le vendredi 2 et le samedi 3 décembre. Cela se nomme Un parfum de montgolfière, mais avant de parler de cette pièce, certains des auditeurs et auditrices vous connaissent sans doute puisque on a déjà eu le plaisir de vous accueillir. Mais d'autres peut-être que non. Il va falloir donc expliquer à nos auditeurs qui est Alberto Lombardo.
Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Alberto Lombardo, c'est moi. Que dire ? Disons que j'ai commencé par être comédien. J'ai fait le chemin classique de beaucoup de comédiens, c'est-à-dire conservatoire à Saint-Étienne, puis à Lyon, ensuite les ateliers Vitesse à Paris. Et voilà, et puis j'ai eu la chance de travailler quasi régulièrement. Enfin, il y a quand même eu des moments plus difficiles, bien sûr, hein, comme il en existe beaucoup dans ce métier. Mais bon, j'ai pas trop à me plaindre. Et puis, donc j'ai travaillé avec diverses compagnies, surtout à Paris, puisque j'ai résidé longtemps à Paris. Après, j'ai commencé à avoir envie d'écrire. C'est la rencontre de différentes personnes qui m'ont poussé à le faire. Je faisais beaucoup de montage avant, montage de pièces qui existaient. J'essayais d'en faire autre chose. Et puis, jusqu'au moment où on m'a dit, ce serait peut-être bien que t'écrives. Voilà, donc j'ai commencé à écrire dans les années 85, enfin un petit peu plus tard, dans les années 90, pardon. J'ai pas tellement la mémoire des dates. J'ai écrit d'abord pour des comédiens que je connaissais, que j'avais envie de faire jouer, les pièces que je montais. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai écrit des pièces comme ça, qui ont été éditées. Mais enfin, c'est surtout à partir de rencontres que j'ai écrit. Donc voilà, j'ai écrit une trentaine de pièces à peu près jusqu'à présent. Et j'ai eu la chance, il y a 10 ans, de rencontrer Didier Lelong du Facteur Théâtre et qui m'a proposé de devenir auteur associé de la compagnie Le Facteur Théâtre. Donc je suis à Reims depuis plus de 10 ans, c'était en 2010, donc ça fait 12 ans maintenant. Et voilà, et donc je suis à la fois auteur, mais aussi comédien, je joue dans ces spectacles. Et aussi j'anime des ateliers d'écriture théâtrale ou de jeu à la Maison de Quartier Orgeval, au Café J'aime, et puis dans différents collèges ou lycées.
Alors pour ce parfum de montgolfière, il est fait mention de la Compagnie des Lustres. La Compagnie des Lustres, comment s'articule-t-elle avec Alberto Lombardo ? Quel est le lien ?
Eh bien c'est encore une rencontre. Il y a 3 ans, je fais partie d'une association qui s'appelle les EAT, les écrivains associés de théâtre. Et donc qui regroupe près de 400 autrices et auteurs. Et donc dans toute la France, il y a dans les différentes régions. Et j'ai rencontré Christophe Maniguet il y a plus de 3 ans. Et voilà, ça a tout de suite connecté entre nous. Et je cherchais quelqu'un pour reprendre ce parfum de montgolfière qui existe depuis très longtemps. On en parlera peut-être tout à l'heure. On a fait une lecture, évidemment. Et il a trouvé ça charmant. Et il a accepté de devenir mon partenaire dans cette pièce. Et comme il a une compagnie qui s'appelle La Compagnie des Lustres, qui est basée en Franche-Comté, il a accepté de prendre cette pièce sous la coupe de la compagnie. Donc La Compagnie des Lustres est une compagnie qui ne présente également que des auteurs contemporains, dont lui-même, puisque Christophe est également auteur de théâtre.
Si on revient donc sur ce parfum de montgolfière et ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que la pièce existait déjà, et d'ailleurs quand j'avais regardé sur internet avant votre venue, je me suis aperçue effectivement qu'il y avait eu des propositions par le passé. Oui. Donc quelle est la genèse de cette version 2022 ?
Alors c'est pas la même chose.
Il faut revenir sur les versions précédentes pour comprendre le projet ?
Oui, je pense, oui. La genèse de la pièce, c'était quand j'étais à l'école Chaillot, chez Vitesse. Et un jour, on devait faire des improvisations comme ça. Donc une comédienne monte sur scène, et une comédienne que j'adorais à l'époque, mais j'étais très timide, donc je n'osais jamais aller lui parler. Je la trouvais magnifique, je la trouvais très belle, elle ressemblait à Ingrid Bergman. Et voilà, et donc elle a commencé à interpréter un personnage de signora, de femme bourgeoise, comme ça. Et l'idée de cette improvisation, c'était qu'on pouvait rentrer quand on voulait dans la scène. Donc, et je suis rentré en tant que son domestique. Et en fait, on a tenu la scène tous les deux pendant une heure et on s'est amusé comme des fous. C'était extraordinaire. En plus, on parlait dans toutes les langues, enfin, où on inventait des langues et tout, italien, anglais et d'autres langues inconnues. Et voilà, et à la fin, tout le monde nous a dit, mais c'est pas possible, vous aviez répété avant et tout. Et non, pas du tout. Et ça, c'était il y a très longtemps. Et 10 ans plus tard, en 96, ou 98 plutôt, je crois, oui, j'ai décidé d'écrire ce parfum de Montgolfière. Bah, évidemment que je ne me souvenais pas du tout de ce qu'on s'était raconté pendant cette improvisation, mais ce rapport existait, quoi. Je l'avais en moi. Et voilà, donc j'ai écrit ce parfum de Montgolfière qui a été donc joué, créé en 98, oui c'est ça, en mai 98 à Paris, monté en scène par Dana Burns-Wetzberg, un Américain à Paris, et dans lequel je jouais avec une autre comédienne. Et à partir de là, en fait, c'est une pièce qui a été énormément jouée, en fait. Elle a été traduite en anglais et en italien. Elle a été jouée aux États-Unis. Elle a été jouée à Montréal. Elle a été jouée en Espagne. Elle a été jouée en Roumanie. Enfin, plusieurs troupes l'ont montée. Et c'était extraordinaire, quoi. Alors, parfois j'étais invité, parfois pas, et je voyais toujours des interprétations complètement diverses et variées de ce parfum de Montgolfière. Voilà, et puis justement, donc, quand j'ai rencontré Christophe, avant de le rencontrer, j'avais cette envie de rejouer, de remonter cette pièce, mais cette fois avec deux hommes, parce que normalement cette pièce met en scène une femme et un homme, une maîtresse et son domestique. Et j'avais envie de jouer le rôle de madame. J'ai demandé à Eva-Marie Courbon de nous mettre en scène. Et en fait, c'est elle qui a trouvé l'idée très intéressante et qui même l'a développée en disant que voilà, le fait de que cette pièce soit jouée tout à coup par deux hommes, elle pourrait d'ailleurs être jouée par deux femmes aussi, un peu comme les Bonnes de Genet qui a été jouée aussi par que des hommes. Eh bien, ça permet d'avoir un autre éclairage sur la pièce que j'imaginais absolument pas, une autre dimension, à la fois plus drôle et plus sombre, paradoxalement.
Ça implique un travail de réécriture, de changer le genre des personnages, ou c'est juste par le jeu ?
Alors, oui, c'est une très bonne question. L'idée, c'était que je ne change pas l'écriture, que tout reste comme ça, et puis que voilà, qu'est-ce qui allait se passer en changeant les genres des personnages. En fait, on a rajouté un préambule où on comprend que c'est deux comédiens qui vont jouer deux personnages, voilà, donc on nous voit nous vêtir, donc voilà, et il est vrai que pendant la répétition, puisque les comédiens sont censés sortir de leur personnage pendant la pièce, donc ça c'est nouveau, hein, ça n'existait pas avant, j'ai rajouté deux ou trois, on va dire trois petites répliques, quoi, mais vraiment, voilà, c'est tout, mais voilà. Mon histoire n'a pas le mérite d'être aussi extravagante que la vôtre, mais quand le pot rose est découvert, j'ai au moins l'honnêteté de le reconnaître.
Navré, je n'ai jamais su improviser.
Qui parle d'improvisation? Vous avez sûrement dû beaucoup répéter.
À quelle fin?
Est-ce que je sais? Pour épater, pour vous protéger.
De qui?
De vous-même.
Quelle drôle d'idée.
Je suis certaine que vous avez beaucoup de succès.
Pas plus qu'un autre.
Franchement, vous n'êtes pas mal.
Vous trouvez?
C'est une opinion purement personnelle. Je ne prétends pas représenter la gent féminine en son entier, mais je peux affirmer que vous avez quelque chose.
Quelque chose?
Bon, vous n'êtes pas très sensuel, c'est un fait.
Ah.
Oui, vous êtes trop petit. Vos gestes sont saccadés, ça manque un peu d'harmonie, tout ça.
Je ne vois pas en quoi je pourrais plaire, alors.
Vous avez un regard très profond. Les sourcils sont un peu trop broussailleux, mais on peut épiler. Vous êtes trop poilu, à mon goût. Enfin, si le nombre de poils qui se trouvent sur votre corps est proportionnel à celui de vos sourcils, je crains fort que cela me déplaise.
Détrompez-vous, mon torse est quasiment imberbe.
Tiens donc.
Et mon dos également.
Ça, c'est une surprise. Et le reste?
Ça doit correspondre à vos craintes.
C'est déjà moins grave. L'important est que tout soit pas de la même couleur.
J'ai mes chances, alors.
Oui. Maintenant, ça dépend comment vous vous y prenez.
À quel niveau?
Au niveau le plus bas.
Apparemment, c'est très satisfaisant.
On vous l'a dit?
Mais vous avez la mémoire courte.
Ah, cette histoire! Vous avez eu d'autres critiques, je suppose.
Il me semble avoir été très clair.
Alphonse, vous n'êtes pas drôle. Maintenant que vous m'avez dévoilé votre corps, rien ne vous empêche de me livrer le reste. Profitez de la situation, mon petit. C'est beau ce que nous vivons ce soir, ce rapprochement de deux êtres aussi dissemblables que vous et moi. C'est une grande leçon de tolérance.
Oui, c'est sympa.
Je vous offre un petit moment d'intimité, ne le refusez pas. J'ai fréquenté de nombreux fils et filles de prolétaires quand j'étais étudiante. Faisons sauter les barrières, franchissons les frontières, découvrons-nous. Je reste persuadée que je peux vous aider. Je sens que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de vous.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Vous êtes sans cesse sur la défensive. Ça cache une faille. Je suppute un traumatisme que vous auriez subi dans votre enfance.
Supputation erronée.
Alphonse, si vous ne coopérez pas, je vais être tenté de me fâcher.
Mais enfin, que voulez-vous savoir?
Ose me soutenir que tu n'as jamais plus consommé depuis cette nuit lubrique.
Est-ce que c'est difficile de reprendre un travail d'écriture qu'on a fait il y a longtemps, de se reglisser dans des personnages, de revenir dans une pièce qu'on a écrite il y a un certain temps? Est-ce que on évolue tous, on change?
Oui.
Est-ce que c'est compliqué, cela?
Pour celle-ci, je dirais non, parce qu'elle m'a toujours habité. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de versions, donc je l'ai vue souvent. Donc elle était toujours là. Et en plus, je dirais que c'est ma pièce la plus d'apparence, la plus classique, quoi. Hein, c'est, on pourrait dire au départ que c'est une espèce de vaudeville, quoi, de comédie de boulevard bourgeoise. Hein, une madame qui arrive et qui sans prévenir et qui surprend son domestique. Voilà, donc ça vraiment, ça prend l'allure des pièces de boulevard comme La Biche ou Feydeau ou Scribe. Voilà, donc non, c'est pas difficile. Ce qui était difficile là, c'est de changer de rôle puisque j'ai jamais joué ce rôle-là. Et puis surtout de garder toujours en lumière que nous, en tant que comédiens, enfin, comédiens qui jouons des comédiens, parce que c'est une pièce à tiroir, hein, c'est donc des comédiens, donc Alberto et Christophe, qui jouons deux comédiens, Jean-Pierre et Francis, qui jouent deux personnages, Madame et Alphonse, son domestique, qui jouent eux-mêmes d'autres personnages, parce que dans la pièce, il y a des jeux de rôle, en fait. Donc, un peu comme dans les bonnes aussi. Voilà, donc c'est voilà, ce qui est difficile, c'est de ne pas perdre de vue toutes ces strates.
Alors, un petit pas de côté avant de revenir donc à cette pièce qui sera présentée au Cellier. Vous l'avez dit, elle a été beaucoup adaptée, elle a été traduite. Et ça, c'est simple pour un auteur de voir sa pièce traduite en sachant que bien, la traduction amène forcément des changements. Il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Est-ce qu'on perd un peu son bébé? Est-ce qu'il faut s'en détacher pour réussir à en profiter pleinement?
Oui, alors après, bon, ça a été traduit en anglais. Moi, en anglais, bon, je me débrouille, on va dire. Mais c'est pas... Et c'est vrai que le traducteur avait beaucoup de difficultés pour tout ce qui concerne les images ou les clichés français, les expressions, donc il fallait qu'il travestisse ça, enfin qu'il traduise ça dans sa langue avec d'autres images qui sont beaucoup plus parlantes pour les Américains, parce qu'il se trouve que l'auteur est américain. Voilà. Après, quand je l'ai vu jouer aux États-Unis, disons que peut-être que la pièce avait pris une gravité qu'elle n'avait pas auparavant, enfin que j'imaginais pas auparavant, mais non, c'était plutôt chouette, quoi. Et en italien, par contre, oui, ça on va dire que ça devenait encore un peu plus, je dirais pas commedia dell'arte, parce que ça n'a rien à voir, mais plus léger, quoi.
2022, donc nouvelle mise en scène, une version radicalement différente de des précédentes.
Oui.
Cette version 2022, justement, la mise en scène, est-ce qu'il est possible de nous en parler ? Il y a deux personnages sur scène et le reste.
C'est très sobre, hein. Je veux dire, on a... Bon, moi, de toute façon, tout mon théâtre, toutes les pièces que j'ai moi-même montées, après, il y a d'autres qui les ont montées, mais quand je les monte, ce qui m'importe le plus, c'est les comédiens et le texte. Après, voilà, bon, là, il se trouve que c'est un décor bourgeois, mais un décor... Qui n'est pas vraiment un décor. Le canapé typique du salon bourgeois, une petite table, et puis c'est tout. Ce que la metteuse en scène, Eva Marie, ne voulait pas, c'était que je me travestisse complètement, et puisque de toute façon, on part du principe que ce sont deux comédiens qui jouent. Enfin, donc je suis un comédien qui va jouer une dame. Donc elle voulait quelque chose d'un peu japonisant, avec une espèce de robe longue, mais voilà, qui n'a pas vraiment de forme, que je me maquille quand même un peu, mais sans perruque, enfin que ça fasse pas travesti total, quoi. Quant au domestique, il reste voilà, dans sa partie du domestique, avec son habit de domestique traditionnel, on va dire. Et la mise en scène, c'est en fait toujours, voilà, on est dans le jeu, dans la comédie, puisque c'est une comédie, c'est drôle, c'est censé être drôle. Il y a plein de réparties, ce sont des personnages qui s'envoient plein de claques dans la gueule, enfin au niveau phrase. C'est léger, c'est joyeux, mais voilà, comme il y a cette seconde, cette sous-strate où on est là de comédien, en fait, on peut comprendre ou pas, mais peu importe, en fait, ce que le public va comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème, ces deux comédiens, on le sent dès le début, ils ont quelque chose à régler entre eux. Et donc, parfois, de temps en temps, c'est ce qui change beaucoup par rapport aux autres versions, les comédiens vont sortir de leur personnage et tout à coup être eux-mêmes. Et au public de savoir quoi, c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce que c'est. Et en même temps, c'est pas appuyé, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si au bout du compte... les gens n'ont pas vraiment compris la sous-histoire, c'est pas très grave, c'est pas ça l'important. L'important, c'était de montrer que les comédiens sont fragiles dans cette pièce et ne peuvent pas s'empêcher de... Vous savez, on dit souvent, quand on est comédien, bon, bah, on laisse ses problèmes au placard, enfin au vestiaire en tout cas, avant d'aller jouer. Bah, là, c'est pas le cas. Voilà. Il y en a un des deux, en tout cas, qui n'est plus capable de laisser ses problèmes et donc qui va les avancer sur scène. Que je peux dire pour Un parfum de montgolfière, c'est peut-être juste relater les thèmes qu'il y a dans cette pièce.
Ah, mais bien sûr, et puis moi, j'ai encore des questions. J'aimerais savoir pourquoi ça s'appelle Un parfum de montgolfière, par exemple. Alors peut-être pas tout, parce que...
Non, pas tout, parce que c'est...
On ne peut pas le dire, mais...
Non,
pistes, au moins.
Oui, on va dire que, voilà, c'est une histoire qui est arrivée il y a très longtemps à Alphonse, le domestique, et qu'il va nous raconter sur scène. Voilà, une histoire très étrange. Ce qui est important dans cette pièce, eh bien, bon, vous l'aurez peut-être compris, quand je parle domestique et quand je parle maîtresse, c'est le rapport de pouvoir, hein, l'abus de pouvoir, comme dans, voilà, qu'on trouve dans toutes les pièces classiques, Molière, Marivaux, Beaumarchais, dans un sens beaucoup plus social, évidemment, chez Beaumarchais. Une rébellion, l'ascension. Et puis, ici, donc, on a affaire à un véritable valet de comédie, logé, nourri, blanchi, et apparemment, qui s'en contente. Sauf qu'il refuse, comme les valets de certains valets de Molière ou beaucoup de valets de Marivaux et ceux de Beaumarchais, il refuse d'être assujetti. Et il est capable de se rebeller et il possède lui-même... Il a ses armes pour pouvoir se rebeller et mettre en difficulté sa maîtresse qui, elle, use de son pouvoir de domination sans compter, quoi. Donc il y a tout un jeu aussi derrière ça, derrière ce rapport de pouvoir, tout un jeu de séduction, notamment de la part d'elle, de madame, qui semble très attirée par son domestique, auquel il ne répond absolument pas et qui va forcément la rendre folle, quoi. Elle va pas supporter. On trouve aussi dans cette pièce justement le thème du consentement, hein, qui est un thème brûlant de nos jours. Quand on désire quelqu'un qui ne nous désire pas, jusqu'où on peut aller, quoi? Et puis, carrément, Madame ici est comparée plutôt à une espèce de mante religieuse, prête à tout pour faire tomber son domestique. Donc elle le harcèle avec des allusions, des tentatives sexuelles aussi, donc physiquement. C'est très ambigu, mais à un moment donné dans la pièce, les choses peuvent se retourner et peut-être qu'Alphonse n'est pas si innocent que ça. Peut-être qu'il a des... Enfin, en tout cas, peut-être qu'il a des... Enfin, il a des secrets, en tout cas, qui vont être... peut-être ou pas révélé, puisque de toute façon, dans cette pièce, le plus important, c'est le fantasme. C'est, voilà, est-ce qu'il s'agit d'un fantasme total? Est-ce que tout ce que nous racontent les personnages, c'est complètement faux? Ou est-ce qu'il y a du vrai? Ou alors, est-ce que tout est vrai? Voilà, on navigue tout le temps entre le fantasme et la réalité. Pour moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Qui d'entre nous n'a pas une fois dans sa vie transformé une histoire qu'il a vécue pour l'embellir, pour séduire ou pour faire croire des choses ou pour se disculper, enfin je sais pas. Donc il y a la mythomanie qu'il a, mais voilà, et ça va beaucoup plus loin parce que c'est pas uniquement transformer une histoire, c'est dire qu'on a vécu d'autres histoires et peut-être qu'ils ont vécu toutes ces histoires folles qu'il nous raconte, ou pas.
La pièce est proposée au Cellier. Peut-être un mot aussi sur cette salle. Il y a de multiples endroits où jouer à Reims.
Oui, le Cellier, oui. C'est une très belle salle. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, un très beau lieu plutôt, parce qu'il y a plusieurs salles. Un très très beau lieu. Enfin, les gens connaissent, j'imagine, mais s'ils ne connaissent pas, il y a toute une partie exposition en bas au sous-sol. Et puis au rez-de-chaussée, il y a deux très belles salles. La salle Moineau. Un peu plus petite, mais qui est formidable parce que j'y ai joué d'ailleurs il y a quelques années. Tout le monde s'en fout d'Alberto Lombardo. Et c'est une salle que j'aime beaucoup parce que les gradins sont amovibles, on peut l'organiser comme on veut. Et il y a une salle un peu plus grande qui s'appelle.
Plus classique
et qui convient d'ailleurs mieux à notre pièce. C'est celle qu'on a choisie. La salle Jean-Pierre Miquel avec des gradins, tout ça qui est aussi très très agréable, avec un beau plateau, un bel espace scénique.
Peut-être avant de se quitter, parler un peu de la musique. Est-ce qu'il y a des compositions originales
qui ont été
proposées sur.
Oui. C'est mon cher ami Jérémy Lefebvre. Qui est compositeur, interprète, qui chante aussi, qui aussi écrit des romans, enfin qui sait tout faire. Ça a été un des premiers comédiens qui a joué dans ma première pièce, qui s'appelait Des rives sur un terrain vague. Donc c'était il y a très longtemps. Et voilà, et j'ai demandé à Jérémy, donc qui est venu voir un filage quand on a recréé cette pièce. De nous faire la musique entre les différents intermèdes, ce qu'il a fait. Et voilà, je suis très, très heureux qu'il ait accepté. Donc Jérémy Lefebvre, et puis à la régie, ce sera Dominique Vinet, qui est très connu à Reims, qui a travaillé beaucoup au manège, qui travaille avec le Facteur Théâtre depuis longtemps aussi. Donc je suis très content aussi qu'il ait accepté de faire la régie Lumière.
Et donc, cette pièce est proposée le jeudi 1er décembre, le vendredi 2 et le samedi 3 à 19h30 au cellier. Est-ce qu'il faut réserver ou est-ce que cela peut nous prendre le soir même?
Les deux. Oui, c'est toujours bien de réserver parce que nous, ça nous conforte en disant bon, bah, c'est bien, il y a un peu de monde et tout, parce que c'est toujours très difficile. Si vous réservez, eh bien, venez. Si vous ne pouvez plus venir pour une raison ou une autre, eh bien, dites-le nous, c'est toujours mieux. Et puis, la salle est grande, je pense qu'il y aura toujours des places pour ceux qui ne savent pas jusqu'au dernier moment. C'est comme pour les votes aussi, donc voilà. Donc oui, donc c'est des pièces, j'ai oublié de dire quand même, enfin on l'a déjà dit, mais je le répète, c'est avec Christophe Maniguet que j'aurai pour partenaire. Et puis, bah, vous l'avez dit, hein, jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3 décembre à 19h30 au Cellier, au 4 bis rue de Mars à Reims.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.